Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
La radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, lundi 2 février 2026. Vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Quelle bonne idée! On fait un petit point sur les jeux concours. On vous propose deux places pour la release party de Mansion Cellars et Gondawa à Lubu. C'est organisé par l'asso Goslico le jeudi 5 février dès 20h. Le mot de passe pour jouer et gagner. Romain Estelle. Ah, vous l'avez facile.
C'est pas triangle.
Non, 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 non. C'est Sanxian. Je sais pas si je le prononce bien. Sanxian, peut-être. Du nom du luth d'origine mongole dont jouent les musiciens de Gondawa. Donc il faut le sélectionner sur notre site pour pouvoir être tiré au sort. Et puis on a aussi un autre jeu. On vous propose deux places pour la Rennes Boxing Night, gala de boxe anglaise du Cercle Paul Bert de Rennes. Ça, c'est le samedi 14 février à 19h pour la Saint-Valentin à la salle Colette Besson de Rennes. Mot de passe pour gagner à rentrer sur notre site.
Pressing.
Pressing, technique de combat pour perturber l'activité adverse et prendre le dessus. Pour jouer et pour gagner, rendez-vous sur c-lab.fr. Tout de suite, le flash d'Estelle.
Les tensions internationales autour de l'Iran ne s'apaisent pas. Jeudi, l'Union européenne a inscrit les gardiens de la révolution, alors à la tête de l'Iran, sur sa liste des organisations terroristes. Hier, selon le journal Sud-Ouest, les élus de l'hémicycle iranien auraient scandé « mort à l'Amérique, mort à Israël, honte à l'Europe », avant de déclarer les armes européennes comme « terroristes ». En parallèle, Donald Trump a déclaré hier son désir de conclure un accord avec l'Iran, notamment sur l'armement nucléaire du pays des Mollahs. Le guide suprême Ali Khamenei n'avait pas manqué de souligner le risque d'une guerre régionale si les États-Unis intervenaient sur le territoire iranien. Gaza connaîtra-t-elle la paix ? Samedi, des frappes israéliennes dans l'enclave palestinienne ont fait au moins 32 morts, selon la défense civile de Gaza. Il s'agit de l'un des pires bilans humains depuis l'annonce du cessez-le-feu, avec plusieurs victimes encore enfants. Dans un communiqué, l'armée de Tsahal affirme que 8 terroristes auraient été aperçus dans des infrastructures à l'est de Rafah. Alors qu'il était fermé depuis 2024, le point de passage de Rafah a partiellement été rouvert par Israël hier. Une ouverture vitale sollicitée par l'ONU et de nombreuses ONG qui sera drastiquement limitée et conditionnée par Jérusalem. Et des Grammy Awards qui s'ouvrent au monde entier. Hier soir, la 68e cérémonie américaine des remises de prix musicaux s'est distinguée par la diversité de ses récompenses à l'international. Mais pas seulement. Dans un contexte politique tendu aux États-Unis, plusieurs artistes ont pris la parole. En cause, les polémiques autour de l'opération anti-immigration de Donald Trump et les actions de l'ICE à Minneapolis qui ont coûté la vie à deux personnes. Roman, en quoi cette édition s'est distinguée des autres ?
Pour la première fois dans l'histoire des Grammy Awards, une œuvre hispanique a remporté le trophée suprême. Il s'agit de l'album Debi Tirar Mas Fotos de Bad Bunny. Dans cet album, il mêle rythme traditionnel de Porto Rico, dont il est originaire, et textes engagés. Une œuvre qui s'est imposée face à plusieurs grands noms de l'industrie musicale américaine, parmi eux le rappeur Kendrick Lamar, pourtant reparti avec 5 Grammy Awards, ou encore la pop star Lady Gaga.
Une petite relance, Estelle.
C'est une édition qui a aussi été marquée par des prises de position politiques.
Effectivement, à commencer par Bad Bunny, qui a appelé à mettre l'ICE dehors. Je cite « Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes humains et nous sommes américains ». Et ce n'est pas le seul. Billie Eilish, chanteuse américaine, qui a reçu le Grammy Award de la chanson de l'année pour son titre Wildflower, a aussi haussé le ton. Sur scène, elle évoque clairement sa prise de position face aux opérations de l'ICE. Je cite « J'ai l'impression qu'il faut simplement continuer à nous battre, à prendre la parole et à manifester. Nos voix comptent vraiment, les gens comptent vraiment. » Une autre artiste fait référence à la politique migratoire de Trump, Olivia Dean, chanteuse britannique et révélation de l'année. Elle s'est présentée sur scène en disant qu'elle était une petite fille d'immigrée. Je cite « Je suis le produit de ce courage et je pense que ces personnes devraient être célébrées ».
Quelles sont les réactions de Trump face à cette cérémonie très engagée politiquement ?
Je vais envoyer mes avocats poursuivre ce pauvre maître de cérémonie pathétique, sans talent et complètement idiot. Ce sont les mots de Donald Trump. Le maître de conférence en question est Trevor Noah, humoriste et animateur de la cérémonie des Grammy Awards. Juste après la présentation de Billie Eilish, l'humoriste s'est lancé dans une blague bien piquante, un peu trop épicée pour le président américain. Je cite « Félicitations Billie Eilish, waouh, c'est le genre de Grammy que tous les artistes convoitent, presque autant que Trump convoite le Groenland, ce qui est logique car depuis la disparition d'Epstein, il lui faut une nouvelle île pour traîner avec Bill Clinton », a déclaré l'animateur. Une intervention survenue deux jours après la révélation de nouveaux documents dans l'affaire du prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Cette allusion du présentateur a suscité chez le président américain le besoin de se justifier. Je cite ses propos publiés sur le réseau Truth Social. « Je ne peux pas parler pour Bill, mais je suis jamais allé sur l'île d'Epstein, ni même quelque part à proximité. Jusqu'à cette déclaration mensongère et diffamatoire de ce soir, personne ne m'avait jamais accusé d'y avoir été, pas même les médias qui diffusent pourtant de fausses informations. » Après avoir menacé l'animateur de le poursuivre pour beaucoup d'argent, Donald Trump conclut, je cite « Prépare-toi Noah, je vais m'amuser avec toi ».
N'en déplaise à Donald Trump, cette 68e édition des Grammy Awards confirme une ouverture musicale au monde. La K-pop fait son entrée pour la première fois dans l'histoire de la cérémonie. Le titre Golden, extrait de la bande originale du film d'animation K-pop Demon Hunters, est récompensé. Il remporte le prix de la meilleure chanson écrite pour un support visuel. Côté français, Gesaffelstein est le seul titre distingué. Il est récompensé pour sa reprise du titre Abracadabra de Lady Gaga. L'artiste décroche le Grammy du meilleur mix de l'année. Après Louis Alliot, Cédric Villani, un nouveau nom français lié à l'affaire Epstein. Dans un communiqué transmis aujourd'hui à l'AFP, Jack Land assume pleinement ses liens.
Ah non, pas encore! Vous n'allez pas encore nous partir en fou rire?
Non, non, pas de fou rire cette fois-ci.
En plus, c'est pas drôle ce que tu dis là.
Après Louis Alliot, Cédric Villani, un nouveau nom français lié à l'affaire Epstein. Dans un communiqué transmis aujourd'hui à l'AFP, Jack Land assume pleinement ses liens avec Jeffrey Epstein. Il précise toutefois que ces rencontres ont eu lieu à une époque où rien ne laissait supposer que l'ex-homme d'affaires était impliqué dans un réseau criminel. L'ex-ministre de la Culture et actuel président de l'Institut du Monde Arabe voit son nom ainsi que celui de sa fille Caroline apparaître à plusieurs reprises dans des documents révélés vendredi par le ministère de la Justice américaine. Après Nestlé, Guigos, Pico et Nutribio, c'est au tour des marques Popote et Vita Germine de rappeler des lots de lait infantile première.
Ah non.
Pardon.
Ça non plus, c'est pas drôle d'ailleurs.
C'est pas drôle du tout.
Donc,
la raison, le ministre de l'Agriculture a abaissé le seuil autorisé pour la toxine céréalide responsable de rappels dans plus de 60 pays. Aujourd'hui, la Commission européenne a saisi l'autorité sanitaire afin de fixer dans la journée un seuil maximal sur la présence de céréulides dans l'alimentation infantile. Plusieurs industriels pointent du doigt un fournisseur d'ingrédients chinois, Cabio Biotech, qui produit une huile pouvant provoquer vomissements et diarrhées. À ce stade, deux enquêtes pénales ouvertes en France n'ont pas établi de lien direct entre les symptômes et les laits consommés. Mauvaise surprise dans les transports rennais, jeudi dernier. En plus du contrôle habituel des titres de transport, la police a mené une opération XXL contre les consommateurs de stupéfiants. 60 policiers étaient épaulés par 40 agents de la CRS 82, avec l'aide de deux chiens renifleurs, Narco et Hauteval. Bilan de l'opération, 504 personnes contrôlées, 12 amendes forfaitaires délictuelles, 7 mises à disposition pour obligation de quitter le territoire français et 5 pour d'autres motifs, dont une pour l'interdiction administrative de paraître à Rennes. Jeudi dernier, les travailleurs et travailleuses de la sécurité sociale se sont mis en grève dans toute la France. Du jamais vu depuis 50 ans, leur revendication, être mieux pris en compte, surtout financièrement. L'AFKEN s'est rendue devant la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour y assister.
Les pancartes plastifiées affrontent la pluie. Dans la petite foule de manifestantes et de manifestants, des slogans résonnent « emploi féminisé, donc précarisé ». Devant la préfecture de Rennes, Manuela, de son nom d'emprunt, est venue scander son ras-le-bol.
Moi, je suis CESF et j'ai des collègues assistantes sociales. Et en fait, on n'a pas la reconnaissance que l'État accorde aux autres travailleurs sociaux de toute la France.
Au cœur de cette mobilisation, la prime Ségur, une enveloppe de 183 euros attribuée au secteur médico-social, mais à laquelle les agentes et agents sociaux n'ont pas le droit.
C'est important de parler de nos métiers qui sont des métiers difficiles. Le métier de travailleur social, c'est un métier d'usure. Et on a besoin de reconnaissance pour rester motivé et pour rester là pour les gens, parce que je pense que c'est des professions quand même importantes. On exerce, nous, dans la sécurité sociale, une mission de service public.
Un besoin de reconnaissance financière pour revaloriser un métier précarisé et en manque de personnel. Julie travaille à la CAF et s'est déplacée de Vendée pour témoigner de son mécontentement.
On passe notre temps en fait à se réorganiser. On est actuellement en sous-effectif dans le sens où les départs en retraite ne sont pas remplacés, les collègues qui sont en arrêt maladie non plus, les arrêts maladie longs. Et on nous demande chaque année de réduire nos missions parce que nous ne sommes pas assez nombreuses. Donc on fait de moins en moins de missions. On est des collègues travailleuses sociales à être au bord de la rupture parce qu'on nous demande toujours plus avec moins de moyens. Voilà, et c'est plus possible.
Alors aujourd'hui, comme syndicat, il y a Force Ouvrière, pour qui je suis, et il y a la CGT.
Pour Laurence, la mission était d'obtenir une audience entre la préfecture d'Ille-et-Vilaine et des représentantes de la mobilisation.
Alors surtout, ce qu'on attend de la préfecture, je pense, c'est une remontée d'informations auprès des ministères qui regardent de très près les budgets des organismes de sécurité sociale et notamment les budgets aussi de fonctionnement et donc les budgets sur la rémunération des personnels. C'est un manque de reconnaissance et de leur qualification et de leur travail.
Le délégué du préfet Gabriel Morin a donc reçu aux alentours de 13h la délégation manifestante. Un courrier à destination du ministère devrait être rédigé selon une source présente lors de l'audience. Elle ajoute que les syndicats ont espoir d'avoir été entendus. Vous avez été étudiant ou étudiante entrepreneur au sein du Pépite Bretagne, arrêtez tout. Les candidatures pour les prix Pépite des Pépites sont ouvertes jusqu'au 6 février. Ce prix met en avant 5 parcours accompagnés par le dispositif Pépite pour célébrer les projets et les plus belles histoires du réseau Pépite France. Les lauréats ou lauréates bénéficieront d'une visibilité nationale, d'un pitch sur la scène du stand L'Oréal à Viva Technologies 2026 et pour certains, d'une dotation pouvant aller jusqu'à 8000 euros.
Merci beaucoup Estelle, tu restes avec nous pour l'interview.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
On t'écoute.
Au champ libre, l'hiver n'est pas une saison morte. Bien au contraire, les jardins d'hiver font pousser les histoires, les images et les idées. Pour cette 8e rencontre, l'édition donne champ libre à l'imaginaire. On en parle avec Malik Diallo, lunettes sur le nez et manches retroussées, directeur de la bibliothèque des champs libres. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour commencer, les jardins d'hiver, c'est quoi exactement ?
C'est un festival qui a lieu 3 jours au champ libre. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un temps festif, c'est vraiment un temps fort des champs libres où tout le monde est le ou la bienvenue. Et il s'agit vraiment de célébrer ensemble la littérature sous toutes ses formes, qu'on soit lecteur, qu'on soit pas lecteur. Donc ça se passe les 6, 7 et 8 février prochains, donc c'est tout le week-end. Et vous aurez plein de propositions, voilà, des expériences très différentes autour de l'univers du livre.
Et pourquoi c'est important pour vous de proposer ce type d'événement culturel et notamment en plein hiver ?
Alors en plein hiver parce qu'il pleut, mais avec un peu plus d'ambition, je dirais que c'est le projet culturel des champs libres et de la culture en général, c'est de se rassembler, de faire des choses ensemble, de tisser des liens. Jardin d'hiver est une de ces occasions autour du beau matériau culturel qu'est la littérature. Et peut-être de manière plus précise, je dirais qu'un des rôles qu'ont les textes, la littérature, c'est aussi se donner confiance. Se donner confiance individuellement, quand on découvre d'autres expériences, on s'ouvre sur le monde, ou on découvre d'autres intimités aussi par la littérature. Se donner confiance individuellement et puis aussi collectivement, découvrir qu'on n'est pas tout seul. Lire, c'est quand même un truc assez marrant parce qu'on lit tout seul, mais ça nous relie aux autres. Donc c'est aussi ça, l'idée de ce temps fort autour de la littérature. C'est avec aussi ces objectifs et ces ambitions-là.
Et donc, au cours de cette édition, on va pouvoir retrouver plusieurs auteurs. Mais comment ont été-ils sélectionnés ?
Alors, c'est un travail qu'on fait toute l'année, en fait. C'est un an avant, on commence à réfléchir aux auteurs, aux autrices qui pourraient participer à Jardin d'hiver. Ils ont été sélectionnés par une équipe très vaste. Alors, c'est beaucoup de collègues de la bibliothèque, des collègues programmateurs, programmatrices au sein des Champs Libres. Et donc, la sélection qui est proposée là, c'est en fait aussi issu de toutes les relations qu'on a toute l'année avec le public qui vient lire, qui demande conseil, qui donne ses coups de cœur aussi. Voilà, donc c'est un mélange de coups de cœur, de veille sur toute la production littéraire qui est très 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 nombreuse, de dialogue avec des partenaires. On travaille aussi avec des partenaires locaux dans la programmation. Il y a par exemple tout un univers qui est fait autour d'une maison d'édition rennaise, les éditions Pantera, qui vont occuper l'espace vie du citoyen des Champs Libres. Et puis c'est aussi toutes les opportunités qu'on a pu saisir en fonction des sorties, des spectacles, des diverses formes qu'il y a pu avoir autour des œuvres proposées par les auteurs cette année.
Et donc pour comprendre un peu plus cette programmation, je propose déjà de visualiser les quatre grandes thématiques qui vont raconter l'esprit de ce jardin d'hiver 2026. Mais en quoi ces quatre grands axes le racontent, cet esprit ?
L'esprit, c'est avant tout d'avoir de la convivialité, moi je dirais. L'objectif, c'est que les visiteurs puissent passer un bon moment et partager des bons moments au Champ Libre. Donc on propose effectivement différents axes dans la programmation. Il y a vraiment des choses pour les familles, pour les personnes qui ont plutôt envie de mettre la main à la pâte aussi, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers créatifs. Il y a d'ailleurs un atelier qui est organisé avec les étudiants de Rennes 2 autour de jeux de mots, enfin d'un aspect ludique autour des mots. Et puis on a des formats plus rencontres. Là, il s'agit vraiment de rencontrer les auteurs et d'écouter aussi les auteurs parler de leurs œuvres, mais aussi parler des œuvres des autres. C'est-à-dire qu'on aime bien inviter, et ça c'est un des rendez-vous un peu phares du festival, le format rendez-vous au jardin, où les auteurs sont invités à partager leurs coups de cœur. En fait, comme nous, on pourrait le faire en partageant avec des amis des livres ou des films qu'ils ont bien aimés. Donc on a ce format-là et aussi le format des balades littéraires, où les auteurs déambulent avec le public dans la bibliothèque et vont choisir, sélectionner des œuvres qui leur plaisent.
Donc oui, la première thématique, c'est en famille, puisque c'est un événement qui s'ouvre à tout le monde. Et on retrouve particulièrement Michaël Jourdan dans plusieurs ateliers manuels, mais aussi Victoria Dorsch avec Jardin rêvé. Et pourquoi avoir autant misé sur la création graphique et notamment sur le dessin ?
Parce que ça parle beaucoup aux enfants et on voulait vraiment que ce soit aussi un festival familial. Donc il y a vraiment une offre pour les familles. Et puis traditionnellement, la Bibliothèque des Champs Libres a pour coutume depuis quelques années maintenant, tous les ans, d'inviter une illustratrice ou un illustrateur. Et donc là, c'est Michaël Jourdan cette année qu'on retrouvera à plusieurs moments au Champs Libres et qui fait aussi des ateliers à la médiathèque de Gévesey mercredi. Et alors l'illustration, parce que c'est une entrée aussi dans le livre qui n'est pas que les mots, mais voilà, qui est aussi plus visuel et qui permet aussi des formes de partage, parce que on peut peindre, soit on peut repartir avec des cartes. Par exemple, les personnes qui participeront aux ateliers avec Michaël Jourdan pourront repartir aussi avec un petit quelque chose. Voilà, c'est une forme qu'on trouve assez accessible et puis aussi tout simplement belle, parce que voilà, c'est des gens qui ont du talent et qui le partagent et qui permettent aussi aux différents participants aux ateliers de s'exprimer par l'aquarelle ou le feutre.
À travers leurs mains.
Voilà.
Et on retrouve aussi beaucoup d'ateliers participatifs avec une fresque collective, la dictée dessinée, des performances en musique. Pourquoi cette envie de faire plutôt que de seulement montrer ?
L'objectif, c'est que ce festival il permette aux gens de participer, parce qu'on on pense beaucoup quand même que dans l'offre culturelle qu'on peut proposer, il s'agit de faire ensemble, enfin, pour moi, un des objectifs de la culture. Le lien qu'on peut créer les uns avec les autres, c'est justement parce qu'on va faire des choses ensemble et pas juste être en mode spectateur où je reçois, où on m'inculque quelque chose. D'où l'idée de faire participer. Et puis aussi faire participer des acteurs du territoire. Quand on a des formats autour de la musique, par exemple, et Ose le son, qui sont un partenariat qu'on fait de longue date avec le conservatoire, bah c'est vraiment des élèves du conservatoire qui viennent proposer leur adaptation en mots, en musique de certaines œuvres. Donc ça donne aussi un autre regard, que ce soit pas que les auteurs qui fassent vivre leur œuvre, mais vraiment qu'il y ait des appropriations aussi par des personnes différentes.
Et une autre thématique, c'est « On aime, on partage », comme vous en parliez tout à l'heure, qui repose beaucoup sur la transmission de coups de cœur. Donc pourquoi c'est essentiel aujourd'hui de créer ce type d'espace de partage ?
Alors ça, c'est des formats qui existent au Champ Libre en fait toute l'année, qu'on propose souvent à la bibliothèque. Pour donner un exemple, il y a le Parlons BD, où là, les bibliothécaires viennent partager des coups de cœur avec le public, et le public peut aussi partager les siens. Donc c'est des formats qui sont assez inclusifs, parce que finalement, si on a quelque chose à partager, on peut le faire, mais si on a juste envie d'écouter ou d'avoir des conseils, on peut aussi assister à ce type de format. Et c'est des formats assez faciles d'accès. Et vraiment, un des objectifs du festival, c'est de montrer à voir qu'on n'a pas forcément besoin d'être un grand lecteur et que le sujet, c'est pas de réfléchir sur la littérature, c'est plutôt de réfléchir sur le monde, sur les liens qu'on a les uns avec les autres, sur nos expériences. Et du coup, on essaye dans tous ces formats que vous avez cités de proposer des entrées qui soient simples et comme chacun a envie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui préféreront écouter, des gens qui préféreront lire, d'autres qui ont besoin de faire, d'autres qui ont envie de creuser vraiment ce qu'un auteur a mis dans son œuvre. Et voilà, toutes les formes du festival essayent de proposer des formats très différents. On a appelé ça d'ailleurs le sous-titre du festival, c'est la littérature librement. C'est de se dire, voilà, soyons libres de rentrer par une porte, une fenêtre ou un endroit dans la littérature. Voilà.
Et du coup, on va pouvoir retrouver les coups de cœur de qui ?
Eh ben, par exemple, de Jean-Baptiste Delamo, qui est notre auteur associé à cette édition. Donc, c'est un auteur qu'on retrouvera tout au long du week-end, sous différents formats. Donc, il partagera, par exemple, lors des jardins d'hiver, ses coups de cœur. Il a invité aussi d'autres autrices. On retrouvera aussi les coups de cœur des bibliothécaires, je l'ai dit tout à l'heure, et du public aussi dans différents formats de partage. Voilà.
Et pourquoi Jean-Baptiste Delamo a été votre auteur associé pour cette édition ?
Alors là, c'est des débats qu'on a en interne. En fait, comment est-ce qu'on choisit finalement ces auteurs-là ? On essaye d'alterner les profils aussi selon les différentes éditions du festival. L'année dernière, c'était Lola Lafont qui avait accepté d'être un peu la marraine du festival. Donc cette année, c'est des collègues de la bibliothèque aussi qui ont proposé cet auteur qui a une écriture assez intéressante, un peu plus adulte, on va dire, aussi. Pour aussi équilibrer dans la programmation l'offre famille, on va dire l'offre plus adulte. Et on trouvait que c'était intéressant le regard qu'il avait un peu dans son écriture sur le monde actuel. Et puis, pour être tout à fait pragmatique, il faut aussi trouver des auteurs qui acceptent d'être un peu très sollicités pendant ces 3 jours, parce qu'on leur demande beaucoup de participation et une forte mobilisation. Et on est très contents qu'ils nous rejoignent pour ces 3 jours.
Et pour revenir un peu plus sur cette programmation, la troisième thématique, c'est participer, participer. Et donc le public est invité à écrire, expérimenter, décoder. Par exemple, il y a un atelier autour du braille qui met la question de l'accessibilité au cœur de la programmation. Pourquoi c'était important pour vous d'intégrer pleinement tout le monde au Jardin d'hiver ?
Les champs libres tout au long de l'année, l'idée c'est vraiment d'être sur un lieu inclusif où on va travailler sur les questions d'accessibilité, d'inclusion, voilà, que tout le monde puisse participer et se reconnaisse aussi dans la vie de ce lieu. Et le festival est évidemment complètement dans cette lignée-là. Donc effectivement, un atelier en braille, c'est à la fois, il s'agit de proposer un petit temps ludique et aussi de donner un accès à cette langue du braille qui n'est pas toujours très connue par tout le monde. Et puis, dans l'idée de cette participation, c'est aussi de partager des moments un peu sympas. Par exemple, le samedi, il y a une espèce de performance collective qui est animée par un collectif qui s'appelle La Grosse Boule. Et il s'agit de faire dessiner les gens avec des contraintes. Voilà, c'est une sorte de petit concours de jeu. On essaye d'avoir des formes ludiques. Voilà, donc ça, c'est le samedi après-midi. On a un bingo aussi le samedi soir, le quiz littéraire R. Faut écrire ça comme les LOL coiffures un peu. Et voilà, donc c'est vraiment aussi que les gens puissent s'exprimer. C'est un lieu d'expression. En littérature, quand même, c'est choisir des mots, pouvoir s'exprimer. Et on essaye de proposer des formes d'expression aussi pendant ce festival.
Et il y a aussi les ateliers d'écriture collective. Est-ce que vous cherchez à créer un sentiment de communauté pendant ce festival ?
Oui, c'est l'occasion de, comme je disais, de faire du lien entre les personnes. Alors, de communauté, oui, autour de la culture, de la littérature, d'une manière générale. Et je dirais aussi, sur un sens un peu global, qu'on essaie de partager autour de la découverte. Il y a des gens qui vont venir d'ailleurs pendant ce week-end au Champs Libres, sont peut-être même venir au festival, mais on espère qu'elles vont trouver des surprises ou voilà, et l'envie de creuser, soit en achetant un livre, soit en empruntant un livre, soit en découvrant un auteur, une autrice. Donc c'est ce côté un peu curiosité, découverte qu'on essaye d'agiter entre nous et avec le public à cette occasion.
Et pour revenir sur la dernière thématique de votre programmation, c'est les coins des lectures qui mélangent texte, musique, voix, parfois même langue des signes. Pourquoi cette place centrale donnée à l'oralité alors que c'est de la littérature ?
Oui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que la littérature, l'acte de lire, on peut le faire tout seul et ça peut apparaître finalement comme un endroit de repli. Et je trouve que ces occasions de festival, de temps commun, c'est aussi l'occasion d'en faire un peu une fête et de l'extérioriser beaucoup plus, justement. Déjà, de partager ses lectures, parce qu'on lit chacun, mais après, en gros, ça sert à rien si c'est juste pour rester dans son coin. Donc, autant s'en parler, y compris dans la confrontation, des fois, ou même dans un aspect plus de solidarité. Là, par exemple, on a une session d'arpentage, donc voilà, où chacun va lire son chapitre et après, on vient mettre en commun la compréhension qu'on a d'un ouvrage. Et voilà, il s'agit vraiment pour nous, cette oralité, pour moi, fait partie un peu de cet esprit un peu festif et de partage, qui est un peu la philosophie.
Et donc, pour finir, si vous deviez donner une seule bonne raison aux personnes de venir au Jardin d'hiver 2026, ça serait laquelle ?
Ça va être super déjà. On ne s'y ennuie pas. Et puis, y a forcément quelque chose qui va vous plaire, quelque part, dans les Champs Libres pendant tout le week-end.
Donc n'hésitez pas, puisqu'avec 20 écrivains et écrivaines annoncés sur cet hiver, il va y avoir des fêtes d'hiver au Champ Libre. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site des Champs Libres, en plus des rendez-vous du 6 au 8 février, retrouver des événements jardins d'hiver dans les bibliothèques, lieux culturels des communes de la métropole rennaise jusqu'à la fin du mois de février. Merci.
Merci.
6h avant minuit.
C'est l'heure de la chronique et ce soir, Lafcan est de retour avec sa chronique On en a gros.
Non, tu dégages !
Maintenant, il faut nous écouter.
Ou ça sera un bain de sang.
Je vais flamber la moitié de la Bretagne.
Parce que là, on en a gros.
On va pas rester le cul vissé à la casse-bord. Il y a une soirée qui digue.
On ne peut plus rien dire.
Les migrants, c'est comme les éoliennes.
Et c'est contre nature. Hein.
C'est quoi d'être blanc aujourd'hui ?
On en a gros.
On en a gros.
Ils amènent de la drogue, ils amènent le crime, ce sont des violeurs et certains, je l'admets, sont de bonnes personnes. Devinez de qui nous vient cette citation.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some...
Et oui, c'est lui, c'est Donald Trump. Et allez, deuxième devinette, de qui parlait Donald Trump en 2016 lorsqu'il disait notamment « ce sont des violeurs ». Et non, pas de lui et sa bande de potes, mais bien des Mexicains. Et là, je me suis fait un petit chemin de réflexion. Vous le savez, vendredi, le département américain de la justice a sorti de nouveaux documents sur l'affaire Epstein. Les chiffres, 3 millions de pages, 2000 vidéos, 180 000 photos. N'hésitez pas à prendre une petite pause, histoire de bien visualiser la masse de preuves qui est tombée. Évidemment, ce sont 3 millions de pages sordides qui feraient passer le Necronomicon pour un conte enfantin. Mais je suis allé fouiller un petit peu. Comme à peu près tous les réseaux sociaux ce week-end, Et là, je vais vous laisser 5 secondes. 5 secondes pour essayer de deviner combien de fois le président Donald Trump est cité dans ses nouvelles révélations.
5, 4, 3, 2... One.
Ding ding, bien qu'il n'y ait pas de preuve de discussion directe entre Jeffrey Epstein et lui, le président américain est cité 38 000 fois dans les nouveaux dossiers.
You are fake news.
Or Donald Trump, les personnalités blanches américaines ne manquent pas dans les dossiers Epstein. Elon Musk a très largement son lot d'échanges avec Satan. Jeffrey Epstein, je voulais dire, on trouve d'autres discussions pour le moins intéressantes. Avec Steve Bannon, par exemple, pour discuter influence politique internationale, Howard Lutnick, le ministre du commerce américain, Miroslav Lajcak, diplomate slovaque qui vient de démissionner, l'ancien premier ministre norvégien Thorbjørn Jagland, et bien sûr des classiques des Epstein Files comme l'ex-prince Andrew et Bill Gates. Dans mes recherches, et peut-être qu'il y a méprise de la part de votre cher journaliste en herbe, je n'ai pas trouvé de personnalité mexicaine associée à ce trafic sexuel. Bizarre, Donald Trump nous avait dit que c'était des criminels, des violeurs. Par contre, le terme mexicain apparaît 1116 fois dans les dossiers. Bah alors, en fait, ta bande et toi, Donnie, vous avez l'air d'en parler des Mexicains. Un fantasme mal assumé, peut-être, de vieux criminels tout droit sortis d'un fond de cas. Bon, bref, on va se faire une petite review des trucs les plus chelous, voire abominables que j'ai trouvés dans les dossiers. D'ailleurs, je le souligne, mais j'ai sorti cette chronique avant toi, Feldup. Non, je le dis parce que, au vu de l'horreur qui s'y trouve, les vidéos iceberg et théories vont s'enflammer cette année. On y va.
Nothing to fear.
Justement, on commence par toi, Musk. Parmi toutes les bizarreries que t'as échangées avec Epstein, les rendez-vous et déjeuners qu'on lit dans vos agendas, je n'ai pas bien compris un mail. Le 8 août 2015, l'émirat Sultan Bin Sulayem écrit à Jeffrey Epstein « Cher Jeffrey, as-tu eu ton repas avec Elon Musk et lui as-tu expliqué mes propositions? Quelles ont été ses réactions ?» En 2012, Musk demandait déjà à Epstein quand aurait lieu la fête la plus folle de l'île. Sinon, on a Richard Branson, milliardaire britannique qui réclamait un harem à Epstein, l'ex-prince Andrew qui déclarait à Jeffrey qu'il serait ravi de rencontrer une jeune femme russe de 26 ans, apparaissant ensuite agenouillé près d'une femme allongée au sol. Le pire, ce sont les centaines de mails qui parlent d'oiseaux ou de pizza, faisant en réalité sûrement référence aux victimes de trafic sexuel. On y parle de cages pour oiseaux, de torture, des oiseaux préférés de Jeffrey, d'un forum pour échanger et acheter des oiseaux, de livraisons à milliers d'euros pour des oiseaux et des pizzas. Bref, une montagne de mails à l'odeur porcine, putride, gerbante. Dans cette histoire, on ne sait pas tout. Et honnêtement, on ne le saura probablement jamais. On ne saurait peut-être même pas si cela arrivait aujourd'hui. Alors que conseiller quand les petites gens doivent faire face aux plus puissantes ordures de ce monde? Comment vous feriez si demain votre poubelle avait l'arme nucléaire? Si vos chiottes avaient des dizaines d'avocats? Personnellement, aucune idée. Moi, j'écris des chroniques qui ne sont écoutées que par vous, je relaie des infos comme je peux, et puis je regarde Rick et Morty. Pendant ce temps, des victimes sont opprimées par leur gouvernement, par des régimes aux tendances fascistes mal déguisées, et tout ce qu'on peut faire, c'est sortir dans les rues, voter, crier, filmer. De toute façon, le fan de BD que je suis ne pourra que vous l'affirmer, l'amour, le cœur, l'emportera. En échange, si vous continuez d'y croire, alors moi, je m'engage à continuer d'écrire, même si je ne serai écouté que par vous. Allez, bisous mes petits anti-Roger.
Maintenant, il faut nous écouter.
Ou ça sera un bain de sang.
Je vais flamber la moitié de la Bretagne.
Parce que là, on en a gros.
On va pas rester le cul vissé à la casse-bord. Il y a une soirée tuning.
On ne peut plus rien dire.
Les migrants, c'est comme les éoliennes.
Et c'est contre nature. Hein.
C'est quoi d'être blanc aujourd'hui?
On en a gros.
On en a gros.
Mais merci beaucoup, Lafkane, ça c'est dit. Hein? Ça, c'est fait. Mais continue d'écrire et nous, on continuera à t'écouter avec grand plaisir. Et on va aussi écouter s'il y a quelque chose sur le répondeur.
Téléphone.
Allô? Allô?
Syllab, la radio sauvage.
Et non, Estelle, pas de message ce soir.
Trop triste.
Ben, peut-être que vous avez des retours à nous faire sur la chronique de l'AFKN, sur l'interview qu'on a fait ce soir, sur nos flashs, des idées à nous transmettre. N'hésitez pas, 02 30 96 25 35. Et puis aussi, si vous voulez nous souhaiter un bon anniversaire, parce que SILAB fête ses 30 ans bientôt, samedi, et ben, laissez-nous un message d'anniversaire. 02 30 96 25 35. Demain, on se retrouve pas 6h avant minuit, mais 5h30 avant minuit pour une émission spéciale en direct du Triangle pour le festival Waterproof. Je vous y donne rendez-vous. Merci Laura pour la technique et à demain.
Vous êtes bien sûr Radio Campus Rennes 88.4.
J-6 avant les 30 ans de la radio SILAB.
C'est festif.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure très bien.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du show.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur SILAB,
la radio sauvage.